abrège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, maman, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Et si lire, c'était écouter la voix de quelqu'un qui ne vous parle pas vraiment, mais qui vous connaît mieux que vous. Et si les livres étaient les seuls endroits au monde où l'on peut entrer sans frapper, rester des heures et repartir avec un morceau d'âme qui n'était pas le nôtre. C'est quoi un roman au fond? Une fiction, un mensonge bien raconté ou une vérité qu'on n'aurait jamais osé dire autrement? Aujourd'hui, on va ouvrir les pages, pas celles qui se tournent machinalement, mais celles qui laissent une trace. Celles qui racontent des époques, des blessures, des joies et qui parfois réveillent en nous une mémoire que l'on croyait muette. On parle de transmission, de goût du livre, mais surtout, surtout de cette chose étrange qu'est la rencontre. Celle qui bouleverse, celle qui déplace, celle qui change la vie parfois à force d'un simple mot bien placé. On parle d'un festival, mais pas comme les autres. Un festival où l'on célèbre la diversité des récits, des tons, des écritures, où chaque voix compte, même les plus timides. Et pour nous guider dans ce voyage de papier et d'émotion, une invitée aujourd'hui, Anne-Sophie Denoux, coordinatrice de l'association Lecture en Tête, qui nous présente la prochaine édition du festival du premier roman et des littératures contemporaines. Dans cette émission, le mardi, vous entendez une voix inconnue, elle se glisse dans nos oreilles. C'est celle d'un auditeur ou d'une auditrice qui, chaque semaine, nous confie un texte, une lecture qui compte, qui résonne. Aujourd'hui, je crois bien qu'il s'agit d'un poème. En seconde partie d'émission, Isabelle Govineau, chargée de mission au Forum des métiers d'art à Jublin, viendra nous parler des journées européennes des métiers d'art qui auront lieu ce week-end. 3 jours pour découvrir la magie des gestes, la précision des savoir-faire et peut-être retrouver ce lien entre la main et l'émotion. Et pour clore ce programme, ce sera Donatien, notre chroniqueur à la voix singulière, qui prendra la plume ou le micro. L'avantage, c'est qu'avec lui, l'un ne va pas sans l'autre quand il nous offre un petit bout de sa vision du monde un peu décalé, mais toujours juste. Voilà, c'est le programme du jour. On passe ce moment ensemble. Amis auditeuristes, bienvenue à vous et bienvenue à toi, Maxime, au montage et aux manettes des pauses musicales. Comment est-ce que tu vas ?
Bonjour à tous, ça va super et toi, Margot ?
Eh bien, très bien. Du soleil, des livres et justement, allons faire un tour du côté de Lecture en Tête. L'agité du local sur l'autre radio. Pour commencer, Christiane Brémond et Antoine Huvet, les deux coprésidents de l'association, vous tenez à revenir sur l'impact des coupes budgétaires régionales sur l'association et directement même sur le festival du premier roman et des littératures contemporaines.
Oui, bien sûr, puisque nous avons appris au mois de novembre que la région supprimait sa subvention, totalement sa subvention pour 2025, ce qui représente 15% de notre budget, soit 32 000 euros. Donc il est évident qu'il était nécessaire de revoir tout ce qui concerne la programmation et notamment l'accueil d'auteurs et revoir la façon dont nous allions accueillir les publics scolaires notamment.
Et l'impact principal, c'est effectivement les lycéens, principalement lycéens et quelques collégiens qui seront, on a vraiment tenu à continuer à les accueillir sur ces journées pour rencontrer les auteurs, mais malheureusement on n'a plus de quoi financer, en tout cas on a dû faire des choix dans ce sens-là, de financer les comédiens, les artistes qui les accompagnaient sur des journées, sur des ateliers d'écriture, sur des lectures théâtralisées, etc., des mises en voix, des ateliers de mise en voix. Et donc ça, bah, c'est un crève-cœur, mais voilà, on tenait à maintenir des temps de rencontre parce que c'est les lycéens, les collégiens, c'est les lecteurs de demain. Par contre, voilà, la position de la région nous oblige à nous réinventer dès l'année prochaine.
Alors, le festival n'est pas en danger pour le moment. Par contre, effectivement, l'association doit s'adapter.
Oui, pour l'instant, il n'est pas en danger, hein, tout pendant que nos autres financeurs nous suivent, ce que nous avons la chance d'avoir, hein, notamment à travers la ville de Laval et le département et d'autres organismes qui soutiennent la lecture. Mais il ne faudrait surtout pas que ces financeurs revoient un peu leur subvention. Pour l'instant, on va revoir notre projet. C'est évident, mais sans doute que le festival, de toute façon, ne bougera pas.
La culture ne vit pas sous perfusion publique, hein, contrairement à ce qu'a pu, à ce que peut dire la présidente de région. C'est la culture est une mission de service public. C'est grâce à ça que l'exception culturelle française existe. C'est aussi de par cette image internationale que des activités économiques existent. L'activité du luxe qui est très lucrative et qui rapporte de l'argent à du monde, y compris à l'État, est dépendant de cette image-là. Enfin, faut pas l'oublier.
Anne-Sophie Denoux, tu es chargée de programmation et de coordination de projet à Lecture en Tête. Du 24 au 27 avril, il y a la prochaine édition du Festival du premier roman et des littératures contemporaines. C'est la 33e année. Il y a des nouveautés, notamment au niveau du lieu où se déroule le festival cette année.
Oui, on déménage. Alors, on reste à Laval, mais on se retrouve au 40, qui est ce nouveau tiers-lieu dont on parle beaucoup à Laval et en Mayenne. Donc du 24 au 27 avril, que ce soit pour les rencontres scolaires ou les rencontres tout public, nous investirons différents lieux au 40.
28 auteurs sont invités cette année ?
Exactement, nous accueillons 15 primo-romanciers, primo-romancières de notre sélection. Parmi les 18 sélectionnés, il y en a 15 qui peuvent venir au festival. Et puis nous avons une dizaine d'autres auteurs, du suivi d'auteurs. Enfin voilà, ces auteurs que l'on accueille régulièrement, enfin dans tous les cas que l'on suit depuis leur premier roman. Et puis d'autres auteurs qu'on va découvrir avec grand plaisir.
Et évidemment, Anne-Sophie, il y a la remise du prix du second roman.
Oui, on profite du festival pour faire une remise officielle du prix littéraire du deuxième roman. Cette année, le prix est décerné à Karim Khatan pour son deuxième roman, L'Éden à l'aube. Et puis alors, c'est bon, Karim, c'est un peu notre chouchou quand même, mais bon, c'est un jury hein, qui a décidé hein, du lauréat, c'est pas nous professionnels, mais Karim en fait a écrit ce deuxième roman en résidence d'écriture à Laval et en Mayenne, et donc on est encore plus fiers de l'avoir en tant que lauréat et de retour aussi à Laval, enfin voilà, pour parler de ce très beau deuxième roman, L'Éden à l'aube, et puis aussi autour d'un recueil de poésie qu'il va sortir là au mois d'avril.
C'est important de préciser, de repréciser que c'est un rendez-vous gratuit, ouvert à tous, comme finalement tous les rendez-vous que propose Lecture en Tête tout au long de l'année.
Oui, c'est un choix que Lecture a fait depuis une trentaine d'années et qui est maintenu, c'est la gratuité pour attirer un public très très large, voilà, une mixité. Ce que j'aime aussi dire, parce que très souvent, beaucoup nous demandent, mais c'est quoi votre festival ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis nous, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, vous n'avez rien à faire. Le festival du premier roman des littératures contemporaines, c'est un festival comme un festival de musiques actuelles. Il y a différentes scènes. On vient écouter. Si ça nous plaît, on reste. Si ça ne nous plaît pas, on se lève et on sort. Voilà. Et on a le droit de passer d'une salle à l'autre. Voilà ce que c'est notre festival. Voilà. C'est aussi pour ceux qui ont lu, mais heureusement aussi pour ceux qui n'ont pas lu et qui viennent juste découvrir, écouter des auteurs qui posent un regard sur notre société, sur notre monde. Et il n'y a pas besoin d'avoir lu avant. Voilà, c'est comme quand vous regardez une émission littéraire ou une émission de cinéma. Souvent, il y a les bandes-annonces et on découvre le film. Bah voilà. En fait, c'est pour donner envie après de lire ces auteurs et peut-être de les suivre.
Il y a différents types de rendez-vous proposés, des expositions, des projections, des cafés littéraires, des gourmandises littéraires.
Oui, il y a différents formats. Alors, les cafés littéraires ou tables rondes, ce sont deux, trois auteurs autour d'une même thématique, hein, qu'on réunit autour d'une même thématique, en lien avec leur roman ou en lien avec la littérature, enfin voilà, des moments de réflexion. Mais voilà, ce sont juste des rencontres où le public peut venir écouter, poser des questions s'il le souhaite, hein, c'est, voilà, ou ne pas en poser. Mais en tout cas, le public est libre aussi d'intervenir. Et puis, il y a des temps, des formats un peu plus courts, comme des lectures croisées ou des moments privilégiés avec des auteurs comme les gourmandises littéraires. Alors les gourmandises, c'est se faire plaisir. La gourmandise, c'est l'auteur qu'on va écouter pendant une heure sans journaliste littéraire, sans professionnel. On pose les questions que l'on souhaite et la rencontre prend la forme que le groupe de lecteurs souhaite.
On ne peut pas dire que le festival porte une thématique unique, mais il y a quand même quelque chose qui revient. Par exemple, l'idée de l'invisibilité, de la fracture sociale notamment.
Alors, c'est vrai que le festival, chaque année, il n'a pas une thématique précise. Au contraire, on n'a pas forcément envie de s'enfermer dans une thématique, mais proposer plein de thématiques différentes, comme je disais, qui posent un regard sur notre société, sur notre monde. Et voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir aborder différents thèmes. Cette année, on a quand même, voilà, tout ce qui est transmission, comment se construit au sein de la cellule familiale. Il y a aussi quelques romans qui traitent des violences conjugales, de l'inceste. C'est important d'en parler et la littérature permet ça. Et puis, on a aussi différents auteurs qui, d'une façon ou d'une autre, parlent de la précarité, de ces gens qui sont mis à la marge, de ces gens invisibles et probablement des personnes qui vont être de plus en plus isolées et c'est important d'en parler, que le public prenne conscience que ça existe et que c'est des thématiques assez large qu'on souhaite aborder.
Une autre thématique de la programmation me semble être un rendez-vous à ne pas manquer, Désir et l'autre. Plusieurs auteurs vont nous en parler.
Oui, en fait, on a trois auteurs. Violaine Béraud avec son roman Nuit de noces. Enfin, c'est pas un roman, c'est un petit livre de poésie. Simon Joannin avec Ici commence un amour et Karim Khatan avec L'Éden à l'aube. Ces trois romans ont la particularité de parler du désir, du non-désir, de l'amour. Ça fait du bien de parler d'amour un peu. Et c'est toujours très difficile de parler d'amour et de désir dans la littérature et dans d'autres médiums aussi. Et oui, on avait vraiment envie de les mettre en plateau ensemble, puisque ce sont trois auteurs que Lecture en Tête suit depuis le début. Ce sont des générations différentes, ils viennent de milieux différents, d'univers différents. Et tous les trois vont apporter une réflexion sur ce désir, désirer l'autre, dans des contextes très particuliers. Hein. Simon Joannin, c'est avec un contexte où d'une jeunesse qui est en manque de repères. Karim Khatan, c'est sur cet amour et ce désir dans un pays en guerre qui est la Palestine. Comment c'est compliqué de rencontrer quelqu'un et de pouvoir vivre un amour libre, et surtout quand il est homosexuel, libre d'une part. Et on ne peut pas voyager en Palestine puisqu'il y a des checkpoints partout et voilà. Et puis Violaine Béraud qui parle, elle, de l'histoire de ses parents, de sa mère quand elle était jeune, qui était amoureuse de ce prêtre et qu'il a fallu attendre 6 à 7 ans pour que le prêtre, enfin, qui est devenu son père, abandonne la prêtrise et qu'il puisse former un couple. Enfin voilà, voilà, c'est vraiment, on l'a intitulé Désirer l'autre, avec aussi ses bons et ses mauvais côtés, mais voilà, Désirer l'autre. Et tout ce que ça comporte. Et voilà, c'est oui, le dimanche matin à 10h45, à l'auditorium du 40, où ça va être très cocooning. Donc venez écouter ceux qui vous parlent de désir.
Plusieurs rendez-vous avec une autrice phare, je crois qu'on peut le dire, sont proposés. Il s'agit de Marie-Hélène Lafon avec Violaine Béraud, notamment la lecture spectacle intitulée Habiter.
Oui, alors il y a la lecture performance à l'inauguration du festival. Donc c'est une lecture spectacle proposée par Violaine Béraud et Marie-Hélène Lafon. Ce sont deux autrices qui se connaissent très très bien et qui, depuis l'été dernier, travaillent sur cette lecture. Donc c'est à la fois des lectures de leurs propres textes, mais aussi de d'autres auteurs. Et oui, Marie-Hélène Lafon, c'est quand même une auteure phare de la littérature contemporaine française francophone. Nous n'avons jamais eu l'occasion de l'accueillir ici à Laval au festival. Et voilà, pour ceux qui aiment Marie-Hélène Lafon, qui aiment la lire, mais aussi pour ceux qui souhaitent la découvrir, il y a trois temps avec elle, donc à l'inauguration du festival le vendredi à 19h15. Le samedi, c'est un entretien avec elle pendant une heure, enfin un entretien autour de ses romans. Et puis le dimanche, il y a une projection d'un film documentaire, Dansons tant qu'on n'est pas mort. C'est un film documentaire qui, la réalisatrice en fait suit pendant un temps donné Marie-Hélène Lafont dans son travail de création littéraire et elle la questionne sur son rapport à la langue et à l'écriture.
Ce qui est intéressant, c'est donc qu'on parle d'une projection, puisqu'il y a aussi un partenariat avec Atmosphère 53 qui propose plusieurs projections. Il y a d'autres partenariats, il y a notamment la librairie Emlire qui, cette année, est la librairie du festival.
Oui, alors la librairie Je Bouquine et Emlire sont les deux librairies partenaires du festival. Et avec la librairie Emlire, on a ce partenariat autour dans le cadre d'un café littéraire avec Sylvain Bordessoul et Simon Johannin. Ça va être une rencontre littéraire, alors à la fois sur l'adaptation d'un roman en bande dessinée, puisque Sylvain Bordessoul a adapté en BD le premier roman de Simon Johannin, qui est L'été des charognes, et qui avait été repéré à Laval et on avait invité l'auteur. Donc c'est l'occasion aussi de le réinviter. Et puis aussi pour parler de ces invisibles, de la précarité, puisque Simon Johannin, dans l'ensemble de ses romans, parle d'une certaine précarité de la jeunesse. Et Sylvain Bordessoul, dans ses deux bandes dessinées, donc L'été des charognes et Azur Asphalte qui est paru là en 2024, il parle aussi de la précarité de ces deux sœurs qui vivent à Nice et comment elles se démerdent comme elles peuvent au quotidien.
Le festival, c'est un temps où les jeunes sont conviés également. Il y a notamment un temps de lecture pour les 6-12 ans, le samedi et le dimanche.
Oui, alors c'est une nouveauté parce qu'il est vrai qu'au festival, on met en avant des romans de littérature adulte. Alors, c'est pas de la littérature coquine, mais c'est à partir de 15 ans. Voilà, et on aimerait que le festival devienne un peu plus familial et donc on propose en partenariat avec la librairie Je Bouquine deux temps de lecture pour les 6-12 ans autour de thématiques qu'on va aborder pendant le festival, donc l'amour, la transmission, la filiation, la culture. Donc voilà, ce sont deux temps, le samedi et le dimanche à 16h. Donc le samedi sera à la librairie Je Bouquine et le dimanche au 40. Et puis au 40... Pour ceux qui ne savent pas encore, dans le hall d'entrée, sous un escalier, il y a tout un petit coin pour les tout-petits, avec des livres à disposition. Donc voilà, les familles peuvent venir, peuvent aller écouter un auteur ou faire un tour à la librairie et laisser leurs petits dans ce petit coin adapté pour eux.
Et alors, le festival se clôture sur une performance, un spectacle, avec l'artiste Charles Robinson.
Alors Charles Robinson, il a plusieurs casquettes, c'est un écrivain, mais alors il aime sortir la littérature des livres et il aime jouer avec. Et là, il nous propose une performance autour du cinéma, du texte. Donc il va y avoir la projection d'un western de l'âge d'or d'Hollywood, mais un cinéma muet sur lequel lui va parler, va expliquer ce qui s'y passe, mais bien entendu... Ça ne va pas forcément être ce qu'on attend, donc il va y avoir probablement un début très un peu académique et puis ça va partir en cacahuète à la Charles Robinson. À un moment, il y aura une tête de cheval sur sa tête. Donc voilà, c'est décalé, c'est aussi pour montrer qu'il existe d'autres formes, d'autres formats possibles pour parler littérature. Et c'est peut-être par ce genre aussi de format qu'on peut faire venir des gens à la lecture et à la littérature contemporaine francophone. Donc oui, alors moi, je ne connais pas ce spectacle, mais j'ai toute confiance en Charles Robinson. Et ça va être une pépite. Et puis, ça va être sérieux et en même temps, ça va être très, très drôle. Et puis, c'est bien d'être un peu en décalage.
Je crois que pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un festival sur lequel on peut venir sans complexe, puisque finalement, il y a plein de portes d'ouverture que vous proposez pour avoir envie de lire, même si on n'est pas un habitué de la lecture. On peut découvrir un auteur, découvrir juste une thématique aussi, peut-être qui va nous toucher plus particulièrement et se dire, tiens, ce roman-là va peut-être s'adresser à moi. Il y a énormément de propositions. Il faut aller voir le programme sur le site internet ou même des brochures qui sont mises à différents endroits de la ville. Il faut se dire que tout le monde est invité et que on peut s'y sentir bien, quoi.
Et tout à fait. Alors, ça, c'est notre travail de médiation sur le terrain. Alors, qu'on retrouve dans la programmation, c'est comment faire venir le public pour dans un festival littéraire. Alors on entend souvent oui mais ça c'est pas pour moi, mais si, c'est pour tout le monde. On n'est pas dans de la conférence universitaire, on n'est pas à l'école. On a le droit d'ouvrir un livre et au bout de 40 pages ça le fait pas, on a le droit de le fermer et de passer à un autre livre. Enfin voilà, mais il y a ce côté très très sacré du roman. Je pense qu'on tient ça de l'école, mais voilà, on a le droit de consommer aussi. Le festival permet ça, c'est d'aller à différents endroits, écouter différentes choses sur différents formats. Et j'invite vraiment le public à oser venir au 40 juste pour découvrir. Alors la première fois, c'est toujours très difficile, mais on est là pour accueillir et accompagner et voir un petit peu ce qui s'y passe. Il faut oser. Surtout que dans les mois et années à venir, il y aura de moins en moins d'offres culturelles, que ce soit en littérature, dans le spectacle vivant, la musique et tout. Donc il faut, voilà, profitez-en maintenant, venez écouter des auteurs, prenez ce que vous avez envie de prendre et laissez ce que vous n'avez pas envie de prendre. Mais voilà, il faut oser. Et ça change beaucoup de choses et puis ça nous tire vers le haut. Alors tirer vers le haut, ça ne veut pas dire c'est élitiste, parce que voilà, on est aussi taxé d'élitisme, mais on tire aussi vers le haut. Ça nous permet de réfléchir à qui on est, comment on est au sein de la société, en tant qu'individu, comment on est dans le collectif, et puis tout ce qui se passe dans notre monde, de mieux le comprendre. Et si on comprend mieux le monde, je pense qu'on peut mieux se comprendre soi-même. Voilà.
L'agité du local sur l'autre radio. Votre émission continue dans quelques instants avec la lecture de l'éditeur. Mais avant, Maxime, une pause.
Et oui, on va écouter la musique Merveille de Jean-Louis Aubert.
Centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'ai l'imagine quand même, ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, et c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local. « Pour la lecture de l'auditeur aujourd'hui, on retrouve Lénaïque. Qu'est-ce que tu vas nous lire ?
Alors, c'est un poème de Boris Vian qui s'appelle « L'évadé » ou « Le temps de vivre ». Il a deux noms.
On t'écoute.
Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, de tout son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche deux feuilles gorgées de soleil, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre.
L'agité du local sur l'autre radio. Alors ce week-end, les métiers d'art sont à l'honneur à Jublin, en Mayenne, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Donc ça commence ce vendredi 4 et ce sera jusqu'au dimanche 6 avril. Le Forum des métiers d'art ouvre ses portes au public avec des démonstrations, des rencontres, une exposition vente, l'occasion de découvrir des savoir-faire rares transmis avec passion. Et pour en parler, aujourd'hui, Isabelle Govineau, chargée de mission au Forum des métiers d'art. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bah merci de m'avoir invitée.
Alors qu'est-ce qui rend cette édition des Journées européennes des métiers d'art à Jublin unique, peut-être cette année, est-ce qu'il y a des particularités ?
Là, cette année, nous avons une quinzaine d'artisans présents sur tout le week-end et avec des nouveaux métiers, des métiers qui deviennent rares et surtout beaucoup d'artisans nouveaux. En fait, sur la quinzaine d'artisans, il y en a six que le public ne connaît pas. L'objectif, c'est vraiment à chaque journée européenne des métiers d'art de faire découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux artisans et notamment deux nouvelles artisanes qui viennent de s'installer sur notre territoire en plus.
Alors, est-ce que vous pouvez justement nous dire peut-être quelques mots sur ces deux artisanes ?
Donc, alors, on a Mayfield, donc Marie, qui est tofteuse, donc tapissière. Elle fait du tapis, elle fabrique du tapis. Elle sera présente ces deux jours. Et on a aussi Madame Chat. Donc, Madame Chat, elle est cirière. Elle va fabriquer des bougies. Donc Anaïs et de Sassé. Donc on a vraiment deux nouvelles artisanes sur le territoire de Mayenne Communauté.
Est-ce qu'il y a un artisanat peut-être qui raconte quelque chose en particulier de notre territoire ? Est-ce qu'il y a de quelque chose de plus traditionnel en Mayenne ou pas forcément ?
Non, pas forcément en Mayenne, mais par contre on accueille, alors c'est la première fois que je vais le rencontrer, mais on accueille Concept Bois et Jeux, donc on accueille Gaël, lui est un des derniers fabricants de bijoux traditionnels en France en fait.
Alors, le thème national cette année est le trait d'union. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Peut-être, qu'est-ce que ça peut, oui, à quoi ça peut nous interpeller concernant ces métiers d'art, le trait d'union ?
Alors, trait d'union, c'est vrai que moi, les thématiques, elles sont présentes. Après, le trait d'union se fait aussi par rapport aux artisans qui ouvrent sur le territoire leurs propres ateliers. Le forum, lui, propose un atelier collectif pour les artisans qui n'ont pas assez de place dans leurs propres ateliers pour recevoir le public. Et en fait, on a Eugénie Ball, donc à Marcilly-la-Ville, qui, elle, a développé, et l'année dernière, elle était avec nous. Et là, cette année, elle ouvre son propre atelier galerie sur Marcilly-la-Ville. Donc, on a aussi Charlie Rossignol, qui accueille avec lui Woutib dans son atelier à Argentré. Et on a donc Chantal Verdier-Sablé, donc sur Laval, atelier de terre et de fil, qui lui va accueillir Julie Nors, une graveuse, linogravure. Anne-Marie Aubois, qui est modiste, donc plutôt dans le sud Mayenne. Anne-Marie, donc qui est à Ruyer-Froissant, donc qui est modiste et qui fabrique des chapeaux. On a aussi du tissage à Château-Gontier, du papier à Louvernay avec l'atelier Calibris. Il y a aussi à Sainte-Suzanne donc, l'artelier qui expose différents artisans d'art. Là, tout le week-end, nous avons 8 points en Mayenne d'ouverture d'ateliers collectifs ou d'ateliers individuels ou d'ateliers qui accueillent d'autres artisans. Donc le trait d'union, il est là. En fait, on fait la communication pour tout le monde. Et si le public veut passer veut se faire un circuit et passer d'un atelier à l'autre, là, il y a différents métiers à découvrir un peu partout en Mayenne.
Est-ce que vous sentez peut-être un regain d'intérêt du public, justement, pour les métiers d'art ? Peut-être, des fois, c'est aussi l'occasion de découvrir une vocation, j'imagine.
Donc en fait, ce qui est intéressant là, et notamment pour les plus jeunes qui cherchent en fait, qui savent pas forcément, donc ils ont la connaissance des métiers, on va dire, plus traditionnels, mais les métiers d'art, c'est plus caché, c'est moins connu, ou alors on connaît, mais on se dit, ah bah on sait pas que ça fait partie des métiers d'art. Et là, vraiment, cette semaine de journée européenne permet aux plus jeunes de venir rencontrer, discuter, voir les artisans, toucher les matières. Certains artisans proposent de tester, d'essayer, de toucher. Et c'est vrai que c'est intéressant pour les jeunes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la transmission et le partage avec les plus jeunes.
Je crois qu'il y a peut-être quelque chose aussi qu'on peut évoquer, c'est la particularité de pratiquer un métier d'art en milieu rural. J'imagine que l'importance du soutien, de la visibilité est également essentielle.
Je vais parler pour Mayenne Communauté. Le forum métier d'art, il est Mayenne Communauté, donc c'est collectivité locale. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie volonté politique de mettre à disposition un espace, une vitrine pour les artisans d'art. Forum à l'année a un planning d'événementiel. Donc cette année, il commence par les journées européennes. Après, il va continuer par la boutique d'été, où là, c'est une vingtaine d'artisans. Alors, ils ne sont pas présents, mais leurs créations sont mises en vitrine, en boutique. Donc là, le public peut rencontrer d'autres métiers. Le marché des curiosités, le dernier week-end de juillet, où là, c'est une quarantaine d'artisans qui sont présents. Et après, on continue, journée du patrimoine, boutique de Noël. Voilà, il y a à l'année, je calculais ça, ça fait à peu près, allez, une petite centaine d'artisans qui sont mis en avant. Ça permet vraiment à chacun de trouver une place et de rencontrer un public, en fait.
Alors, je le rappelle, donc, cette année, les Journées européennes des métiers d'art auront donc lieu ce week-end du vendredi 4 avril au dimanche 6 avril. Et donc, j'imagine que l'ensemble de la programmation, l'ensemble des différents artisans que l'on peut rencontrer est disponible sans doute sur un programme sur le site internet ?
Oui, le www.forumdesmétiersd'art.com ou le Instagram Forum Métiers d'Art Jublin ou le Facebook. La programmation est sur les réseaux. Ça sera ouvert de 10h à 18h non-stop.
Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, merci à vous de m'avoir invitée et de relayer cette information. Merci.
Merci. C'est la chronique qui revient chaque mardi dans la JT du local. Il s'agit de celle de Donatien.
Donatien l'a entendu aux infos, c'est toujours la même chanson. À chaque fois que la tension monte entre l'Europe et les États-Unis, les taxes déboulent sur le cognac et sur le Bordeaux. Charentais et Girondins voient rouge. Les politiques s'enflamment et ce sont les producteurs de vins et spiritueux qui trinquent. Des vendangeurs qui trinquent, c'est un peu comme des boulangers qui cassent la croûte ou encore des bouchers qui taillent une bavette. Mais revenons à la question sérieuse des dégâts collatéraux provoqués par les décisions politiques. À l'échelle internationale, la guerre fait rage, mais ce sont les petits qui trinquent. À l'échelle nationale, le ministère réduit le budget de l'hôpital et ce sont les malades qui trinquent. À l'échelle régionale, les élus réduisent les subventions et ce sont les intermittents du spectacle qui trinque. À l'échelle départementale, l'académie ferme des classes et ce sont les élèves qui trinquent. À l'échelle communale, on restreint le nombre de logements sociaux et ce sont les familles qui trinquent. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent, qui écopent, dit-on encore, ou qui paient les pots cassés. Allez, on trinque. C'est pourtant sympa comme expression. À la tienne ou à la vôtre, on porte un toast à ta santé ou tout simplement chin-chin. Donatien ne boit pas d'alcool, mais cela ne l'empêche pas de lever son verre et de trinquer à la santé de tous ceux qui trinquent, ceux qui travaillent par tous les temps, qui œuvrent la nuit et les jours fériés, qui se dévouent corps et âme sans ménager leurs efforts, les anonymes et sur le terrain de sport, les perdants qui, avec fair play à la fin du match, serrent la main du vainqueur. Aux accents de la Marseillaise sur le podium, Donatien a toujours préféré sur la scène le lyrisme des grands airs italiens. Comme Violetta chez Verdi, Donatien lève son verre à la beauté qui fleurit, à l'heure fugitive qui s'enivre de volupté, aux doux frissons d'amour, aux baisers ardents. Donatien lève son verre à Maria Callas et à Violetta, toutes les deux amoureuses et perdues, passionnées, aux voix capables de briser un verre, de faire battre les cœurs et d'élever l'âme au-delà du firmament où les étoiles versent sur le jour qui se lève des larmes de cristal.
Inebriamo lutta, libiane talci fremiti che suscita l'amore, e poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amor fra i calici più caldi baci avrà.
Vous l'avez reconnu, c'était la Traviata, l'agité du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anne-Sophie Denoux d'avoir été à notre micro. Merci à Isabelle Govineau, Donatien et merci à toi Maxime. Alors les émissions continuent.
Et oui Margot, la soirée commence à 19h avec les rendez-vous de la PES. Nous sommes aujourd'hui avec Yvonne Genet et Michel Lepage.
Et oui, ils nous font découvrir le fonctionnement des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire des citoyens et citoyennes qui décident de mettre de l'épargne en commun pour soutenir des projets à impact sociaux ou environnementaux sur leur territoire. Et ensuite, c'est plutôt musical, Maxime.
La soirée continue avec du rap à 21h avec Frères de Chaussures.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local, une émission un peu spéciale puisqu'on fera un focus sur la soirée La Pêche du Jour qui a lieu, je vous le rappelle, demain au Carré à Château-Gontier. Dans l'émission, nous accueillerons Eric Fotorino, auteur du texte, et Pierre-François, notre animateur d'atelier. D'ici là, soyez bienveillants avec vous et ceux qui vous entourent. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même ça passe vite.